Raison gardée, une émission proposée par la Libre Pensée de Meurthe-et-Moselle.
Bonjour, difficile de faire une émission de raison gardée au mois de mai sans parler d'un événement dont nous avons déjà parlé dans cette émission sous différents angles. Cet événement, c'est la Commune de Paris en 1871. Quelques semaines hein, d'une tentative par le peuple parisien de créer une république nouvelle et porteuse de valeurs émancipatrices. On en reparlera. Et le mois de mai, c'est un mois qui vraiment est associé à cette Commune de Paris. Tous les ans, le 1er mai, le jour de la Journée internationale des travailleurs, des groupes maçonniques, des représentants de la libre-pensée, des partis aussi comme le Parti communiste et des organisations syndicales rendent hommage aux victimes de cet événement historique très sombre dans notre histoire, mais aussi aux victimes du nazisme d'ailleurs, en se rendant au mur des fédérés. Alors ce mur, il se trouve à Paris, au cimetière du Père-Lachaise, donc dans le 20e arrondissement. Pourquoi parle-t-on du mur des fédérés ? C'est un mur devant lequel 147 fédérés, des combattants donc de la Commune, ont été fusillés par l'armée versaillaise à la fin de la semaine, ce qu'on appelle la semaine sanglante, et ils ont été jetés dans une fosse commune ouverte au pied du mur. Depuis, ce mur symbolise la lutte pour la liberté, la nation et symbolise aussi les idéaux des communards. Alors il faut rappeler peut-être ce qu'a été la Commune de Paris. Alors on parle de la Commune de Paris, mais il y a eu des soulèvements dans d'autres villes aussi. Alors comment resituer un peu cet événement ? On le sait, le 19e siècle voit se développer les idées républicaines, dans le prolongement bien sûr de la Révolution française, avec des tensions au sein de ces républicains. On réfléchit à ce que peut être cette république, les combats politiques sont encore très vifs avec les monarchistes, toujours très, très puissants, les bonapartistes aussi, qui vont porter notamment Louis-Napoléon Bonaparte au pouvoir sous le titre d'empereur, après les élections de la Deuxième République en 1848, hein, on le sait. Napoléon III, par un coup d'État, réussit à prendre le pouvoir et se déclare empereur. Et les origines immédiates de ce qu'on appelle la Commune de Paris sont liées à la guerre totalement désastreuse de l'empereur contre la Prusse, contre Bismarck, et la défaite de Sedan le 2 septembre 1870. Les Parisiens vont connaître un des sièges les plus difficiles de l'histoire. Ils connaissent vraiment une fin, et une fin terrible. Et puis les esprits s'échauffent aussi devant tous les échecs militaires tentés suite aux tentatives de désenclaver Paris. Et il y a une première journée révolutionnaire le 31 octobre 1870 avec une première tentative d'instituer une commune. Le ton monte encore davantage en janvier 1871 quand les Parisiens apprennent que depuis des semaines, le gouvernement de la Défense nationale organise des pourparlers avec Bismarck, donc le chancelier allemand, pour parvenir à un cessez-le-feu. Il y a donc d'autres soulèvements populaires à la fin du mois de janvier 1871 et la troupe donc française, tire déjà sur la foule dans le quartier de Belleville. Les tensions se font déjà ressentir entre le pouvoir, hein, les forces de l'ordre du pouvoir français et le peuple parisien. Il y a des élections, je passe un peu rapidement sur ce sujet que nous avions déjà traité, et Paris se singularise en élisant un nombre assez conséquent de républicains, dont Louis Blanc, Georges Clemenceau, Victor Hugo. Donc on sent vraiment un fossé entre ce qui peut se passer au sein de, enfin, en France, en province, et puis à Paris. Et le peuple parisien estime que la capitale s'est bien défendue et qu'elle, au fond, elle n'a pas perdu contre les Prussiens, que c'est le pouvoir qui s'est engagé inconsidérément dans cette guerre. L'armistice paraît donc totalement insupportable aux Parisiens. Il y a là donc politiquement de quoi nourrir cette colère. Paris, qui est une ville un peu particulière aussi par rapport au reste de la France à l'époque, même sociologiquement, c'est une très grande ville, hein, 1 800 000 habitants, 57% de ses habitants vivent du travail industriel, 12% d'une activité commerciale. La capitale a déjà été le théâtre de grèves et de révoltes. Il y a donc une sorte de culture politique particulière dans la capitale. Et les transformations dans la ville, voulues par le Second Empire, avec les fameux travaux haussmanniens, ont contribué aussi à mettre fin à une sorte de mixité sociale au sein même de Paris. Les classes populaires sont concentrées dans le nord et l'est de la capitale, donc du 10e au 13e arrondissement, et puis du 18e au 20e arrondissement. Ce qui facilite finalement l'organisation de ces milieux populaires dans ces arrondissements et la propagation des idées républicaines, socialistes et anarchistes aussi, bien sûr, dans ces quartiers. On peut ajouter aussi un phénomène particulier qui a été repéré par les historiens, qui est la mobilisation des femmes aussi dans ces combats. On avait eu l'occasion, nous, à raison gardée, de parler de certaines de ces femmes, Louise Michel étant une des plus célèbres, mais grand nombre d'ouvrières, aujourd'hui tombées dans l'anonymat, se sont engagées aussi politiquement dans le combat. Le pouvoir français s'est installé à Bordeaux dans un premier temps, puis va venir s'installer à Paris. Et le pouvoir est confié à Adolphe Thiers, qui de fait préside la France. Et c'est un conservateur qui est déterminé à soumettre Paris à son pouvoir et à, pour le dire avec ses mots à lui, ramener l'ordre dans la capitale. Affront suprême pour les Parisiens, dans la négociation avec Bismarck, les Prussiens ont obtenu le droit de Thiers lui-même de défiler sur les Champs-Élysées le 1er mars 1871. C'est un point qui avait été décidé lors d'un traité préliminaire de paix. Donc c'est vraiment perçu par les Parisiens comme une provocation qui s'ajoute à l'installation même du gouvernement à Versailles, la ville royale par excellence dans l'histoire et l'imaginaire collectif français. Thiers prend d'autres décisions aussi qui vont envenimer la situation, des décisions très, très concrètes. Hein. Par exemple, il supprime la solde des membres de la garde nationale, ce qui prive de revenus une grande partie des Parisiens et de leurs familles. Il y avait un moratoire sur le paiement des loyers au début de la guerre, il le lève, et puis il nomme à des postes clés des personnalités qui sont des bonapartistes notoires, et notamment des généraux bonapartistes qui sont nommés à la tête de la garde nationale. Enfin, un dernier élément déclencheur, c'est ce qu'on appelle souvent l'affaire des canons. C'est-à-dire que Thiers décide le 16 mars 1871 de désarmer la ville pour enlever tous ces canons. Hein. Il y en avait plus de 200 qui avaient été entreposés sur les collines de Montmartre. Donc Thiers envoie 4000 soldats chercher les canons dans la nuit du 17 au 18 mars. Et finalement, les soldats envoyés sont entourés par la foule. Une foule d'hommes, de femmes et de gardes nationaux. C'était une des spécificités de Paris, d'avoir ces très nombreux gardes nationaux. Et bien toutes ces personnes pactisent, les insurgés parisiens pactisent avec les soldats. Et un peu partout, dans les différents quartiers, s'élèvent des barricades et commence cette insurrection qu'on appelle la Commune de Paris. C'est là le vrai début de la Commune de Paris qui va durer 72 jours. 72 jours pendant lesquels l'organisation se fait, on vote pour ses représentants, on organise des comités de quartier, et puis surtout, on commence à instaurer des lois qui sont attendues par le peuple depuis très longtemps. Il s'agit de reprendre le contrôle sur le travail, sur les conditions de travail, sur les moyens de production. Il s'agit de réduire la durée du travail aussi. Alors, par exemple, on supprime le travail de nuit dans les boulangeries. On veille à réduire les émoluments des personnes qui sont là pour œuvrer pour le peuple. Il ne s'agit pas de s'enrichir en travaillant pour le collectif. Et proclamer la séparation des églises et de l'État. Donc, première grande expérience de mise en place juridique du principe de laïcité. On supprime le budget du culte. On développe une école pour tous. On tente de développer une école pour tous qui soit laïque, publique et obligatoire. Les instituteurs vont être mieux traités financièrement, ils vont être mieux payés que précédemment, et les institutrices, première égalité salariale, vont recevoir le même traitement que les instituteurs. On reconnaît l'union libre, par exemple, c'est-à-dire qu'on se détache du mariage comme sacrement religieux. On supprime la catégorie illégitime pour les enfants nés en dehors du mariage. Et puis, plus symboliquement peut-être, on adopte le drapeau rouge, celui des travailleurs, par rapport au drapeau tricolore qui avait été jugé à cette époque, finalement, le drapeau bourgeois. Il y a d'autres grands projets qui sont envisagés, une grande réorganisation de la justice, par exemple, une justice gratuite rendue par des jurys élus. On envisage aussi de détruire, c'est vrai, certains édifices qui symboliquement correspondent à un régime dont on ne veut plus. On envisage de détruire donc la colonne Vendôme, mais aussi de supprimer la statue des saints ou de certains personnages historiques qui sont recouverts d'un voile noir. Il y a des lieux qui sont rebaptisés. Et des lieux qui étaient jusque-là fermés au public sont ouverts, comme les Tuileries ou l'Hôtel de Ville. Donc on voit à la fois une volonté d'inscrire dans l'organisation de l'école, de la justice, du travail, mais aussi dans des symboles et spatialement dans la ville, d'inscrire les idées, de donner corps aux idées qui étaient portées par la commune. Mais voilà... ces quelques semaines vont se solder par une répression féroce. C'est ce qu'on appelle justement la semaine sanglante. La Commune de Paris va être écrasée du 21 mai au 28 mai 1871. 20 000 communards vont trouver la mort. Cette semaine sanglante, elle est chantée. Et je vous propose d'écouter cette reprise par les amis de ta femme de cette célèbre chanson « La semaine sanglante » qu'on vous détaille juste après.
Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des liards. Tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte, la misère, les heureux mêmes sont tremblants. La mode est tout, conseil de guerre, et les palais sont tous sanglants. Oui mais, sabrant le temps, le manche, les mauvais jours finiront. Et car à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. On voudrait qu'on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les jeunes à temps de bouge, valets de rois et d'empereurs. Oui mais ça prend le temps, le manche, les mauvais jours finiront. Et car à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Demain les gens de la police refleuriront sur le trottoir, fiers de leurs états de service et le pistolet en sautoir. Sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuplés, des curés. Oui mais ça prend le temps, le manche, les mauvais jours finiront. Et car à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront.
La semaine sanglante reprise par David Vincent, qui termine en nous laissant entendre une version un peu plus ancienne de cette chanson, une version un peu moins rythmée, mais j'aime bien cette reprise très, très rythmée, elle donne du courage je trouve et l'envie de se battre, hein, parce qu'aujourd'hui encore ça branle dans le manche. En tout cas, on peut l'espérer. Il y a de quoi, là aussi, se révolter. Mais aujourd'hui, on parle de cette semaine sanglante du 21 mai au 28 mai 1871. Cette semaine, Jean-Luc, tu vas la raconter en quelques mots avec moi. Elle oppose 130 000 soldats de l'armée oui. versaillaise, c'est-à-dire le pouvoir officiel, on va dire, de mené par Adolphe Thiers. Et en face, des communards qui, eux, ont à peu près, alors on dit 170 000 membres de la garde nationale, mais les historiens disent qu'il y a 20 000, 30 oui. 000 personnes vraiment capables de défendre c'est Paris ça. En face des 130 000 hommes que Thiers va déployer dans la capitale pour mettre un terme à cette insurrection. Alors les choses commencent le 21 mai.
Oui, le 21 mai. Donc il faut savoir quand même que parmi les 20 000 hommes, enfin les 20 000 personnes qui constituent la commune, il y a aussi des femmes à l'intérieur et des enfants qui ont décidé de se battre. Hein, il ne faut pas l'oublier ça. Hein. Donc ça commence le 21 mai. Les troupes versaillaises, donc de Thiers, pilonnent, assiègent donc un rempart. Et ils arrivent à le pénétrer. Donc les Versaillais occupent les fortifications ils échangent quelques coups de feu, puis le terrain jusqu'à la ligne. À l'époque, il y avait un chemin de fer, on appelait ça la petite ceinture. Ça entourait Paris. Mais enfin, le Paris était différent d'aujourd'hui. Hein. La commune de Paris n'envoie aucun renfort. Et selon Émile Zola, qui était chroniqueur parlementaire, des groupes se forment sur les grandes voies et une partie de la population salue les libérateurs. Donc une partie de la population parisienne salue les Versaillais, notamment sur les grands boulevards, où de nombreux Parisiens hostiles à la commune éclatent de joie.
Faudra que je creuse ça un peu, ça m'a toujours un peu navré d'apprendre que Zola n'avait pas été particulièrement défenseur de la Commune de Paris. On fera un jour une émission sur les écrivains et la Commune et j'essaierai de trouver le pourquoi. Moi qui aime tant le travail d'Émile Zola et ce qu'il a apporté dans les combats de son époque. Bon, pardon, je t'ai coupé.
Mais non, tu as raison, hein, je te rejoins aussi. Hein, Donc, le comité de salut public dépêche un observateur qui les fait prisonnier par les Versaillais, donc par les troupes de tiers. Et ensuite, les troupes de tiers procèdent à la fouille de maison. La délation, hein, donc les gens font de la délation, dénonciation, et puis ça fusille de tous les côtés. Ça fusille vieillards, enfants, femmes. Donc tout le monde y passe, hein, là il n'y a pas de problème, c'est le début. C'est le premier jour. Ça, c'était le 21 mai, le dimanche 21 mai.
Et ça donne effectivement un peu le ton de ce qui va se passer, c'est-à-dire une avancée progressive des Versaillais dans Paris et des exécutions.
Exactement.
Sommaires.
Sur dénonciation.
Sur dénonciation. Et puis parfois...
n'importe quoi.
N'importe quoi. Voilà.
On a connu ça à la Seconde Guerre mondiale aussi. Mmh. Mmh.
Le lundi 22 mai, alors il se produit un incendie. Alors ça aussi, les incendies, c'est quelque chose aussi qui va rester dans l'histoire de la Semaine sanglante. Des incendies dont on va accuser les communards. Alors ce qui s'est passé le 22 mai, c'est un incendie dans les baraquements du Champ de Mars et puis dans les combles du ministère des Finances. Et c'est un incendie dont il sera très largement question ensuite, au moment des procès qui vont être intentés aux communards. Les communards disent que ce sont les obus lancés par les Versaillais, parce qu'il y a une troupe donc, qui avance dans Paris, et puis des obus qui sont lancés sur la capitale. Et donc les communards diront que l'essentiel des incendies est dû aux obus des canons versaillais. Tandis que les Versaillais, donc le pouvoir officiel incarné par Adolphe Thiers, accusent les communards d'incendier la ville. Alors, pour retarder l'avancée des troupes versaillaises, bien sûr, mais aussi simplement par goût de la destruction. Hein. C'est un peu le discours qui sera porté ensuite contre les communards. Et on va commencer aussi à entendre se développer un discours à propos des femmes. Tu disais, on va parler des pétroleuses.
Oui, on en avait parlé.
Hein. Ouais, on en avait parlé dans une émission. C'est-à-dire que les Versaillais, le pouvoir versaillais va dire que voilà, des femmes présentées comme des folles furieuses venaient mettre le feu, répandre du pétrole et mettre le feu aux différents édifices parisiens, enfin quelques monuments, mais aussi dans les maisons, les immeubles, etc. Les communards font fusiller des otages quand même. Il faut le reconnaître. 80 otages vont être fusillés au moment de cette semaine sanglante. Et c'est vrai aussi qu'ils allument des foyers d'incendie pour pouvoir repousser la troupe, parce que les barricades ne suffisent pas. Et de jour en jour, au fil de cette semaine, la troupe versaillaise avance. Elle avance de manière assez inexorable. En tout cas, c'est l'impression qu'on peut avoir quand on lit le récit des événements avec recul, évidemment, ce que les hommes et les femmes de cette époque-là ne pouvaient pas avoir. Et la dernière journée, peut-être, si on fait un saut, va être terrible. Elle est tragique. Quelques personnes se retrouvent justement notamment au Père Lachaise et acculées par la troupe versaillaise qui massacre sans aucun procès ces personnes dans l'enceinte du cimetière.
Oui.
Et puis il y aura bien sûr des prisonniers. on dira dans quelques instants ce qui a été fait à ces prisonniers. On a parlé des communardes qui ont été présentes sur les barricades. On en a des témoignages. Les historiens ont même réussi à reconstruire un peu à dire où étaient présentes des femmes connues, donc comme Louise Michel. On peut dire aussi que des ouvriers étrangers qui vivaient en France, qui vivaient à Paris, se sont aussi engagés avec les communards dans ce combat, comme un juif hongrois qui s'appelle Léo Frankel, et aussi des personnes d'origine polonaise, comme, alors pardon pour la prononciation, hein, Wroblewski, qui est vu comme un des meilleurs officiers dans cette insurrection, parce que ça a été effectivement l'un des points faibles des communards, de ne peut-être pas avoir réussi à s'organiser. Tu disais tout à l'heure, Jean-Luc, le premier jour de l'offensive versaillaise, le 21 mai, on n'a peut-être pas pris la mesure de ce qui se passait. En tout cas, la réaction n'a peut-être pas été assez forte, assez immédiate, pour pouvoir repousser rapidement l'entrée de cette troupe. Mais le nombre jouait aussi contre les communards, à l'évidence. Donc même si la résistance a été exemplaire, même si Wroblewski a tout fait, il a essayé de fortifier le Panthéon et la Butte aux Cailles, il a réussi à tenir en échec en partie les Versaillais, cela ne suffira pas. Et le corps des Zouaves de la République avait été reformé un peu au sein de la commune pour se battre aux côtés des insurgés, mais tout cela ne suffit pas. Et le 28 mai 1871, c'est la fin de cette commune, la fin de cette expérience d'une république sociale et universelle, comme le disaient les communards, définitivement réprimée dans le sang. Alors, ce qu'on pourrait dire aussi, alors je fais le lien parce que nous avons aussi parlé dans Raison Gardée il y a quelque temps du collectif qui s'est créé contre l'érection de la statue de Bijard à Toul. Il y avait eux aussi déjà des mouvements de rébellion très forts en Algérie contre les colonisateurs français, et il y a eu des messages de soutien venus d'Algérie aux communards parisiens, parce qu'ils se reconnaissaient dans les valeurs et les idéaux portés par les communards. Et d'ailleurs, parmi les personnes qui vont être exilées, parce qu'il y a donc ceux qui ont été exécutés à l'issue de la Semaine sanglante, puis de grands procès, à l'issue de ces procès, il y a des condamnations à l'exil, au bannissement, en Nouvelle-Calédonie. C'est le cas de Louise Michel, par exemple. Et Louise Michel, quand elle revient de ce bannissement, elle fait une tournée de conférences en Algérie, en 1904, parce que des liens se sont tissés. Alors, paradoxalement, il y a aussi d'anciens communards qui vont aller en Algérie, mais qui vont se comporter en colonisateurs, en fait, hein, qui vont s'installer comme colons. Alors qu'on pourrait penser qu'ils avaient la pensée politique justement pour ne pas s'inscrire dans cette colonisation de l'Algérie. Mais donc des liens aussi, l'histoire est souvent complexe et les parcours humains aussi. Donc Louise Michel fera une tournée de conférences en Algérie. Elle se souvient de ce soutien d'une partie des Algériens à la cause des communards. Donc c'est quand même une tâche assez importante dans l'histoire de France, cette commune de Paris, une insurrection réprimée dans le sang avec une très très grande sauvagerie, un discours aussi par le vainqueur, comme souvent, un discours par le vainqueur sur la commune de Paris qui n'est pas vraiment enseigné, et encore moins la Semaine sanglante, parce que c'est quand même un cas terrible dans notre histoire de puissance politique qui décide de faire tirer sur son peuple, sur des femmes, sur des vieillards, sur des enfants, sur des personnes engagées politiquement. Il me paraît intéressant de rappeler ce qui peut se produire Nous, aujourd'hui, qui vivons dans une époque où certaines idées d'extrême droite prennent le dessus, et aussi où la répression politique, les tentatives de limiter la liberté d'expression en impressionnant les militants, des jeunes étudiants, des syndicalistes, des personnalités politiques, eh bien, peut-être est-il bon de rappeler que notre histoire a connu une tentative d'une belle république sociale et universelle, pour reprendre les mots des communards, et que le pouvoir en place, ce qu'on appelait à l'époque le bloc bourgeois, a pris les armes pour se défendre et pour mettre un terme à ce qui, pour nous, est quand même un idéal, toujours à défendre. Je vous remercie et à très bientôt dans Raison Gardée.